Bonjour à tous. Nous sommes bénis ce matin de célébrer la résurrection du Seigneur avec tous ces beaux cantiques, avec une entrée, je dirais, majestueuse de la présentation de la parole, la résurrection du Seigneur qu'on a lue. Et nous allons regarder ce matin cette résurrection-là avec l'évangile selon Matthieu. Nous allons le lire en gros et puis voir comment effectivement cette résurrection peut avoir pour nous des implications en tant que chrétiens. Et la question qu'on se poserait, c'est concrètement, qu'est-ce que la résurrection de Jésus m'apporte? Prions ensemble, s'il vous plaît. C'est un beau miracle, n'est-ce pas, quand on parle de résurrection. Généralement, on va associer le miracle, on va souvent parler du miracle de la naissance de Jésus, mais on ne va pas souvent regarder la résurrection comme un miracle. Pourtant, c'est un beau miracle que Dieu nous fait, n'est-ce pas? C'est un beau miracle pour l'humanité entière. Parce que Dieu accomplit ce miracle afin que l'humanité soit sauvée. Mais de façon particulière, c'est un beau miracle pour nous en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens. Parce que c'est ça, notre espérance. Et pour nous de façon particulière, c'est-à-dire moi en tant que Célestin, toi en tant que Paul, en tant que X, la résurrection est pour toi un beau miracle aussi. Donc je le dis afin que nous puissions saisir la grâce de cette résurrection-là, que nous puissions nous l'approprier de façon personnelle. C'est-à-dire que je puisse dire que la résurrection du Seigneur Jésus, c'est pour moi. Que toi aussi, tu puisses dire que la résurrection du Seigneur Jésus, c'est pour toi. Et puis, quelles sont les implications de cette résurrection-là dans ma vie, dans notre vie et dans notre vie en tant que communauté, en tant qu'Église? Jésus est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Et quand on y pense souvent, généralement, personnellement, je vais souvent mettre l'accent sur la grâce de Dieu, la mort de Jésus à la croix. Ah, mais la mort de Jésus à la croix me permet d'être sanctifié. Le sang de Jésus qui a coulé à la croix me purifie. Mais je ne vais pas porter ma réflexion sur la résurrection de Jésus. Et c'est-à-dire, je cantonne Jésus à la croix. Oh, il va au-delà de la croix. Il va jusqu'à la résurrection. Et quand on regarde le parcours de détresse de Jésus, le parcours de la crucifixion de Jésus, c'était un parcours de douleur, c'était un parcours de souffrance, comme on l'a vu vendredi. C'était un parcours de souffrance émotionnelle. C'était un parcours de souffrance, de douleur physique. C'était un parcours de douleur, psychologique, mentale. C'était difficile. Mais il a fait tout ça là à cause de nous. Mais pendant que Jésus était en train de parcourir, passer par ces moments difficiles de souffrance et de douleur, pendant ce temps, dans le camp de l'adversaire, dans le camp de l'ennemi, c'était les moqueries. Dans le camp de l'adversaire, dans le camp de l'ennemi, tout le monde jubilait. Ils étaient contents. Mais pourquoi? Parce que Jésus allait être mis à la croix. Jésus allait mourir. Et quand on lit 1 Corinthiens 2:8, nous dit « Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. » Quand on lit plus haut, le texte nous parle de la sagesse de Dieu, que les puissances des ténèbres, que l'adversaire, que le diable ne pouvaient pas maîtriser. Donc pour l'adversaire, mettre Jésus à la croix était sa conclusion. C'est-à-dire, Jésus doit mourir et puis c'est la fin. Or, et pourtant, c'était le commencement, c'était dans le plan de Dieu. Amen. Voilà pourquoi on ne peut pas s'arrêter à la croix, mais on va jusqu'à la résurrection. À la croix, le sang de Jésus a coulé pour nous, nous purifiant, nous donnant l'opportunité d'avoir accès au Père. Mais on était dans le parcours du plan. Et l'apôtre Paul pouvait dire, si notre espérance, si notre espérance seulement est dans ce monde, c'est qu'on a tout perdu. Mais notre espérance est dans le ciel. Amen. Et ce matin, regardant ce test, nous allons essayer de tirer quelques implications. Je vais tenter de faire ça un peu vite. Quand je regardais le test, j'ai pu faire ressortir à peu près 10, 11. Peut-être on peut en faire encore ressortir. Si on veut regarder les à côté du test et tout ça, on peut faire sortir une multitude d'implications de la résurrection de Christ. Mais on va se cantonner sur Matthieu 28. Et puis partant de là, on va faire ressortir quelques éléments. Matthieu 28. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allaient voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Donc ici, lorsqu'on regarde cette partie, on voit effectivement que quelque chose se passe. Il y a un tremblement de terre et puis on a vu vendredi effectivement que Jésus est mis dans le tombeau. Il y a une forte garde qui veille, qui protège effectivement ce tombeau-là, afin qu'on ne puisse pas venir dérober le corps, afin que le corps ne disparaisse et que les disciples ne viennent dire « Ah, mais tiens, ils sont venus l'enlever de nuit et tout cela. » Donc, ils vont mettre une garde pour veiller sur le tombeau. On nous dit, mais l'ange prit la parole, je suis au verset 5, l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité, comme il avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché, et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez. Voici, je vous le dis. » Donc, l'ange parle aux femmes. Donc, les femmes arrivent. On nous parle de Marie et de l'autre Marie. Mais dans les autres textes, de Luc, de Marc, de Jean, on nous parle d'autres femmes. Donc, on se rend effectivement ici que les femmes arrivent. Et elles vont constater effectivement que Jésus n'est plus dans le tombeau. Alors, certainement, une multitude de questions passent par leur pensée. Où est-il passé? Est-ce qu'ils l'ont volé? Qui l'a fait disparaître? C'est alors que l'ange va leur dire, « Mais le Jésus que vous cherchez, il n'est plus ici, mais il est ressuscité. » Et la première implication qu'on regarde dans ce test-là, c'est que, comme l'ange le dit, comme il vous l'avait dit, on voit ici effectivement la résurrection de Jésus, donc la victoire de Jésus sur la mort. Parce qu'il avait dit qu'il ressusciterait le troisième jour. Donc ça, c'est l'une des implications que nous pouvons avoir. Mais au travers de cette implication, nous voyons la puissance de Dieu qui se manifeste. Parce que la mort ne pouvait pas le retenir. Jésus était la vie, et la mort ne pouvait pas le retenir. Que dit Jésus est la vie, et la mort ne peut pas le retenir. Le tombeau était, la dimension du tombeau, les caractéristiques et les gardes qui étaient là ne pouvaient pas être un obstacle à la résurrection de Jésus. Parce que c'était la puissance de Dieu qui se manifestait au travers de cette résurrection. Donc la puissance de Dieu se manifeste dans la résurrection de Jésus. Jésus-Christ a vaincu la mort. Jésus-Christ a vaincu la mort. Et la deuxième implication que nous pouvons avoir dans ce passage-là, c'est que la résurrection de Jésus vient donner de l'espérance à notre résurrection. Si Jésus n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Voici pourquoi tantôt je disais, au-delà de la croix, nous allons jusqu'à la résurrection. La résurrection de Jésus vient fonder notre foi, vient être la fondation, la base de notre foi, pour nous donner la vie. On dit, Dieu nous a tellement aimés qu'il nous appelle enfants de Dieu. Mais dans le but de nous donner la vie éternelle. Parce qu'on l'a reçu. Donc l'implication qui vient avec, c'est que nous pouvons avoir l'espérance de notre salut. L'implication qui vient avec, c'est que comme Jésus est ressuscité, nous aussi, nous allons ressusciter. Le verset 7, l'ange dit, « Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. » Donc, l'ange vient le dire. Il dit, voici, c'est là que je vous... Il donne des directives aux femmes. pour qu'elle puisse aller effectivement annoncer cette nouvelle-là. Donc ces femmes qui étaient arrivées désespérées, découragées, l'ange leur donne de l'espoir. Donc la résurrection de Jésus vient donner de l'espoir à ces dames-là. Là où il y avait un abattement, imaginez certainement que ce vendredi-là, à la croix, tout le monde était terré, abattu, découragé. Il n'y avait plus d'espoir. Et certainement que les dames venaient peut-être, de façon culturelle. Il faut aller embaumer le corps, il faut aller apporter des aromates au niveau, dans le tombeau. Elles ne pouvaient même pas s'imaginer qu'après 3 jours, ou même elles avaient oublié qu'après 3 jours, il allait ressusciter. Donc on se lève et on va embaumer le corps. On va rendre beau le tombeau. On va balayer certainement autour du tombeau. On va même apporter des fleurs. C'est alors que l'ange leur dit, « Mais celui pour qui vous venez, il n'est plus ici, mais il est ressuscité. » Quel espoir que l'ange leur donne. Je veux dire à quelqu'un ce matin aussi, pour toi, il y a un espoir. Il y a un espoir. Mais le premier espoir que Dieu peut te donner, le premier espoir que Jésus peut te donner, c'est que tu puisses venir à lui. C'est que quand tu es désespéré et tu te cherches, tu ne sais même pas où mettre la tête. Et des fois, ce qui te fleure l'esprit même, c'est le suicide, c'est le découragement de la vie. Ce qui te fleure l'esprit même, tu te dis, tu te poses la question si la vie vaut la peine d'être vécue. Oui, je veux te dire que la vie vaut la peine d'être vécue. Elle vaut la peine d'être vécue parce que Dieu te l'offre. Non seulement il te l'offre, mais il te donne l'opportunité aussi de cette espérance-là parce qu'il est ressuscité. Jésus-Christ est ressuscité. Éphésiens 1, 19 à 21 nous dit « Et quel est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance ?» se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Jésus est au-dessus de tout. Le nom de Jésus est tout puissant. Il n'y a aucune puissance, il n'y a aucune autorité, il n'y a aucun pouvoir au-dessus du pouvoir de Jésus. Quelle grâce! Quelle grâce d'avoir, je dirais, une telle autorité, un tel pouvoir, une telle puissance comme Dieu. Quelle grâce! Alors je veux dire à quelqu'un, certainement, tu regardes autour de toi et puis tu es en train de te dire « Je ne sens pas la grâce de Dieu, je ne sens pas la main de Dieu agir, je ne sens pas la puissante main de Dieu agir. » Je vais te dire qu'il n'y a aucune autre puissance, il n'y a aucun autre nom qui est aussi puissant que le nom de Jésus. Il n'y a aucun autre Dieu qui est aussi puissant que Jésus, que notre Dieu. Donc la résurrection de Jésus vient symboliser la grâce et la puissance de notre Dieu. La mort ne pouvait pas le retenir. Et quand on voit à la Pentecôte comment Pierre s'exprime et parle autour de lui, non, la mort ne pouvait pas le retenir. Ce n'était pas possible. Jésus a eu la victoire sur la mort. Mais c'est pour nous qu'il a fait ça. Lorsque nous lisons les versets 8 à 10, on dit « Elle s'éloignait promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie, et elle courut pour porter la nouvelle aux disciples. Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit, « Je vous salue. » Elles s'approchaient pour saisir ses pieds et elles l'adorèrent. Alors Jésus leur dit, « Ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » Donc Jésus apparaît, c'est-à-dire pendant que l'ange leur dit, « Allez promptement dire à mes frères de se rendre en Galilée pour rencontrer Jésus. » Et pendant qu'elles sont sur le chemin, Jésus leur apparaît. Ah, ça, c'est effrayant ou c'est joyeux? » Donc, on voit, Jésus apparaît et Jésus les rassure. Jésus les rassure. Parce qu'elles vont promptement, elles ne discutent pas, elles obéissent à ce que l'ange dit. Ah, nous qui étions abattus et découragés, qu'est-ce qui va se passer? On se rend compte effectivement que celui qu'on était venu embaumer, le tombeau qu'on était venu embellir, on nous dit qu'il n'est plus ici, mais qu'il est ressuscité et il nous donne un lieu de rendez-vous à Galilée, sur une montagne, qu'il avait déjà indiqué. Alors promptement, elles vont donner la nouvelle aux disciples. Et pendant ce temps, Jésus arrive. Mais il arrive pour quoi? Il arrive pour les rassurer. Il arrive pour leur dire, mais ce que l'ange vous a dit, c'est la vérité. Allez dire à mes frères que je suis ressuscité et qu'on se donne rendez-vous à Galilée. Amen. Il dit, allez dire à mes frères que ce que vous aviez entendu là, je l'atteste et que c'est vrai. Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie. La résurrection de Jésus apporte dans nos cœurs de l'allégresse, de la joie. Une autre implication qu'on peut retenir. Jésus ne peut pas être ressuscité et puis on va être encore dans la détresse. On va être encore, je dirais, dans l'amertume. Jésus ne peut pas être ressuscité et puis on va être encore dans la souffrance, dans la peur. Mais Jésus est ressuscité pour que nous soyons joyeux avec lui. Voici pourquoi il dit, je vous donne ma paix. Pas comme le monde vous donne la paix. Imaginez dans des situations difficiles par lesquelles on peut passer. Imaginez nos souffrances, nos douleurs. Je dirais même nos deuils des fois. Imaginez les situations difficiles par lesquelles on peut passer. Mais malgré cela, Dieu nous donne sa paix afin qu'on puisse aller de l'avant avec lui. Il n'est pas en train de dire, vous n'allez plus souffrir. Il n'est pas en train de dire, venez à moi, vous n'aurez plus de malheur. Il n'est pas en train de dire, venez à moi, vous serez abondamment riche, il n'y aura plus de misère, il ne va pas vous manquer de l'argent. Il n'est pas en train de nous dire ça. Mais il dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Amen. La résurrection de Jésus apporte dans nos cœurs, dans nos vies, de l'allégresse et de la joie. Fixons nos regards sur cette résurrection. Amen.
Amen.
Donc Jésus montre le chemin aux femmes. Donc il atteste effectivement ce que l'ange leur a dit. Donc elles vont passer donc, du désespoir, des craintes qu'elles avaient. Elles sont renouvelées, elles sont restaurées, elles sont encouragées. Parce que là, c'est le maître maintenant qui vient dire. Non seulement l'ange leur a parlé, mais Jésus vient attester. Et vient les rassurer. Du verset 11 au verset 15, il dit, « Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entraient dans la ville et annonçaient aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Ceux-ci, après s'être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent. » En disant, ses disciples sont venus de nuit le dérober pendant que nous dormions. Et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons et nous vous tirerons de peine. Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions qui leur furent données. Et ce bruit s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Ah, c'était impressionnant. Les soldats, on nous dit que les soldats étaient d'abord tétanisés, hein. L'ange est venu, mais l'ange c'était un envoyé pour débloquer la situation. Donc, ils étaient tétanisés. Ils ont repris un peu de force, ils sont allés faire le compte-rendu, et après leur compte-rendu, on leur dit, voici le plan qu'on va mettre en place. On voit combien de fois l'adversaire peut se lever contre la parole de Dieu, contre la vérité de la parole de Dieu. Et il donne les stratégies à suivre, il leur donne les paroles qu'ils doivent dire. Et pendant que nous regardons cela, je vais vers les faux enseignements qu'on peut recevoir. Comment la parole de Dieu, la vérité peut être attaquée, comment le véritable peut être attaqué, sous diverses formes. Et cela a commencé pas de nos jours, hein, mais depuis le Seigneur, depuis sa résurrection. Il fallait brouiller les pistes de la résurrection. On entendra dire, Jésus n'est pas vraiment ressuscité. Peut-être que Dieu l'a échangé à la croix. Mais est-ce que Dieu a le temps de venir s'amuser comme ça? Quelques-uns pourront nous dire, mais c'est un mythe. Jésus n'est pas ressuscité, ça ne peut pas être vrai. Pour nous, Jésus est ressuscité. Amen. Et c'est ce qui est la vérité. Donc pendant qu'on sera en train d'annoncer l'évangile, pendant qu'on sera en train de parler de la vérité de la parole de Dieu, de faux enseignements vont sortir pour brouiller les pistes de la vérité de la parole. Mais nous devons comprendre que Jésus est vraiment ressuscité. Amen. Parce que c'est l'élément fondamental, c'est ce qui vient fonder notre foi. C'est notre espérance. On ne vit pas seulement pour être heureux ici sur terre. Mais on vit pour aller à la rencontre de notre Père, pour aller à la rencontre de notre Dieu. Quel que soit ce qu'on pourrait posséder, quelles que soient les hautes responsabilités qu'on pourrait avoir dans ce monde, quelles que soient nos positions sociales, nos richesses, nos capacités, sans Jésus, on n'est rien. Donc, quand tu as ces choses-là et puis tu ajoutes Jésus encore là-dessus, là, tu es gâté. Amen. Que le Seigneur nous bénisse hein, et qu'il nous aide à saisir la puissance de cette résurrection-là et à pouvoir l'appliquer de façon véritable dans nos vies. Lorsque nous lisons les versets 16 à 17, les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils l'adorèrent, mais quelques-uns eurent des doutes. Quelques-uns eurent des doutes. Alors les femmes, elles arrivent, elles donnent la nouvelle, et on nous dit les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Et quand il le vit, ils l'adorèrent. Donc, les disciples qui vont voir Jésus, c'est-à-dire, ils vont au lieu de rassemblement, au lieu de rendez-vous, et ils voient Jésus. Mais quand on voit Jésus, ils vont commencer par l'adorer. Ils ne sont pas en train d'adorer, ils ne se disent pas, mais il y a un revenant qui est arrivé, nous on va l'adorer. Ce n'est pas un esprit de mort qu'ils sont en train d'adorer. J'avais rencontré un ami une fois et il venait de rencontrer le Seigneur. Et il me racontait son histoire, on discutait. Et il me disait, il dit, « Ah mon frère, tu sais, j'aimais ma mère, j'ai perdu ma mère. Et quand j'ai perdu ma mère, c'était tellement difficile pour moi que je cherchais comment ma mère est décédée. Alors j'ai rencontré un monsieur. Et qu'est-ce que le monsieur va me dire? Il dit, si tu veux savoir qui a tué ta mère, je vais te montrer un endroit. Tu iras consulter pour voir qui a tué ta mère. Et il me dit, effectivement, je suis allé à cet endroit-là. Il dit, nous sommes allés consulter. Et j'ai entendu la voix de ma mère. Est-ce que vous entendez? Il dit, j'ai entendu la voix de ma mère. Et il me raconte. Il dit, la dame que je suis allé voir fait des incantations. Alors, quand elle fait des incantations, c'est comme quelqu'un derrière son rideau se met à parler. et j'entends la voix de ma mère. Et quand ma mère me parle, elle m'indique qui l'a tué. Et il me dit, mon frère, tu sais, ça c'est une ruse du diable pour me détourner de la vérité. Mais après avoir entendu cela, quel est le sentiment de mon cœur? Il dit, c'était la haine qui m'avait envahi. La haine m'avait tellement envahi que je voudrais détruire tout autour de moi. Mais en réalité, c'était un mensonge du diable. Donc les disciples ici ne s'assemblent pas pour aller invoquer un esprit de mort. Parce que l'esprit de mort, il est déjà mort. Et qu'est-ce qu'il va te donner? Il est déjà mort, un esprit de mort. Il dit, c'est alors qu'un jour, pendant que je devais... C'était un jeune musulman, pour préciser. Donc, il dit, pendant que je devais démontrer à une réunion, à une rencontre, que Jésus-Christ n'est pas Dieu, c'est alors que Dieu, Jésus, va venir me chercher. Il me dit, nous étions à une rencontre, et à cette rencontre-là, j'étais le plus jeune orateur. Il fallait que je démontre que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Et quand j'ai fini ma préparation, c'est là que le Seigneur va me saisir. Parce que la nuit, je n'ai pas pu dormir. Il dit, une voix me vient et une voix me dit, tu iras au podium et dire que Jésus-Christ est Dieu. Amen. Il dit, tu monteras au podium et tu diras que Jésus-Christ est Dieu. Il dit, devant combien de personnes? Mais c'était pour me faire lapider ce jour-là. Alors j'ai simulé que j'étais malade. Donc, en simulant que j'étais malade, je n'ai pas attendu que le séminaire finisse. J'ai pris mon sac et je suis parti. Je suis directement rentré dans une église pour prier pour moi. C'est alors que j'ai donné ma vie au Seigneur. Pendant que je m'apprêtais à dire que Jésus-Christ n'est pas Dieu, une voix me dit, tu déclareras que Jésus-Christ est Dieu à ton podium. Il dit, j'étais troublé au fond de moi. Et j'ai rencontré Jésus à cet instant-là. Et je veux dire à quelqu'un aussi ce matin que Jésus-Christ est Dieu. Et qu'il est venu pour nous mourir à la croix. Et merveilleusement, le troisième jour, il est ressuscité pour toi aussi. Pour nous donner la victoire. La victoire sur la mort. La victoire sur les puissances des ténèbres. La victoire sur les autorités. La victoire sur les dominations. La victoire sur les principautés. Donc les disciples adorent Dieu. Ils ne sont pas en train d'adorer un esprit, ils ne sont pas en train d'adorer un homme. Les disciples étaient tellement, je dirais, étaient tellement rigoureux dans leur marche avec le Seigneur. Je dirais même dans la connaissance même du judaïsme, qu'ils savaient qu'on ne peut pas adorer un homme. Tu ne peux qu'adorer l'Éternel seul. Alors s'ils s'inclinent et ils adorent Jésus, et Jésus ne dit pas non, ne m'adorez pas, mais c'est qu'ils sont en train d'adorer Dieu. Il vient démontrer effectivement qu'il est l'empreinte de la personne de Dieu. Et Jésus-Christ est Dieu. Et moi, je veux le déclarer aussi ce matin. Jésus-Christ est Dieu. Amen. Jésus-Christ est Dieu. Amen. Et Jésus-Christ est Dieu vous dit qu'il a ses bras ouverts pour toi aussi. Jésus-Christ est Dieu pour dire que sa résurrection a un impact dans ta vie, a une implication dans ta vie. La résurrection de Jésus nous pousse à son adoration, comme on l'a si bien fait encore ce matin. Jésus-Christ ne peut pas être ressuscité et puis nous, on ne peut pas l'adorer, ce n'est pas possible. Même quand ça ne va pas, même quand c'est difficile, comme on dit, on peut compter ses bienfaits dans nos vies. Des fois, c'est tellement difficile, tu penses que c'est tellement difficile et puis tu regardes à côté de toi, quand une personne te pose son problème, tu dis, ah, c'est que pour moi, la même n'était rien. Donc, voyons comment la grâce de Dieu peut être manifestée par la résurrection de Jésus dans nos vies. Et c'est ce Jésus-là que tu adores. On peut continuer donc de l'adorer. Donc Jésus n'est pas un ange, Il est plus qu'un ange. Jésus n'est pas un prophète, il est plus qu'un prophète. Ah, je me souviens. Ouais, je me souviens que les prophètes qui ont été enterrés sont encore dans leur tombeau. Oui, je me souviens effectivement que tous les grands prophètes qu'on peut nommer n'ont pas pu ressusciter. Mais pourtant, le Dieu que tu sers, ton Jésus qui était dans le tombeau, il est où? Il est où? Il est où? Il est où? Parce que son tombeau est vide. Il est au ciel en réalité. Mais non seulement il est au ciel, ce qui est impressionnant encore, je vais aller plus vite, ce qui est impressionnant encore, on nous dit qu'il est souverainement élevé. Non seulement il est au ciel, mais il est assis à la droite du Père. Mais il fait quoi à la droite du Père? Amen. Il est à la droite du Père intercédant pour chacun de nous. Il est à la droite du Père intercédant pour toi. Et non seulement il intercède pour toi, mais il intercède pour toi comme avocat. Ah, mais comment il défend ta cause auprès du Père? Alléluia. Auprès du Père, nous avons un avocat, Jésus-Christ, le juste. Et pour toi aussi, il est là auprès du Père. Quelle que soit ta situation, quel que soit ton combat, quelle que soit ta préoccupation, quel que soit ton désir, mais il est assis à la droite du Père intercédant pour toi. C'est-à-dire quand il arrive auprès du Père, je dirais, quand les esprits méchants viennent t'accuser auprès du Père, parce qu'on dit c'est ce que Satan a fait avec Job, hein, n'est-ce pas? Mais il vient et puis dit, mais regarde ton Job là, tu penses que c'est parce que il t'aime trop ou quoi? Laisse-moi le toucher un peu, tu vas voir ce qui va se passer, s'il va demeurer dans ta présence. Mais Dieu dit, vas-y. Parce que mon esprit est en lui, tu peux rien. Et l'esprit de Dieu est en toi aussi. Amen. Que Dieu nous garde et qu'il nous donne la force d'avoir nos regards fixés vers lui. Dans cette puissance de sa résurrection. Donc, comme nous l'avions dit, la résurrection de Jésus implique donc sa divinité. Au verset 18, au verset 20, Jésus s'étant approché, leur parla ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Amen. Il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il atteste, il dit « Je suis avec vous » tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Est-ce qu'on peut toucher Jésus maintenant en ce moment? Est-ce qu'on peut toucher le corps de Jésus? Est-ce qu'on peut le sentir? Mais il dit, il est important que je puisse m'en aller. Parce que si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Il faut que j'aille et que le Saint-Esprit vienne. Donc, il vient bâtir avec nous une communion avec Dieu. Il dit, je suis avec vous tous les jours, tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. L'Esprit de Dieu est avec nous tous les jours. Mais il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde parce que c'est à lui qu'on crie. À la fin de nos prières, on va dire au nom de Jésus. Mais c'est parce qu'il est vivant. C'est parce qu'il est avec nous tous les jours. C'est parce qu'il est assis à la droite du Père qu'on peut espérer cela. Qu'on peut tourner nos regards vers lui, qu'on peut l'invoquer. Et l'Esprit de Dieu est en nous, là. L'Esprit de Dieu est avec nous. Et Jésus s'étant approché, leur parla ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Amen. Jésus a tout pouvoir. Il dit « Dans le ciel, sur la terre. » Il n'y a aucun autre nom par lequel on peut être sauvé, si ce n'est le nom de Jésus.
Parce que dans le ciel, sur la terre, sous la terre, dans les eaux, il n'y a aucun autre nom par lequel on peut être sauvé. Tu invoques le poisson, nous on mange le poisson. Tu vas invoquer des animaux, en tout cas Dieu les a mis à notre disposition. Hein? Tu vas invoquer le Dieu soleil pour l'adorer, en tout cas Dieu a créé les astres pour marquer les saisons et les temps. Moi, le soleil brille pour qu'on puisse marcher. Et on va ordonner au soleil on va dire au soleil de faire briller ses rayons en notre faveur quand on sort, quand on marche. Tout pouvoir a été donné à ton Dieu, à ton Jésus. Sur la terre, comme au ciel, tout pouvoir lui a été donné. Et il va dire, quand il le dit aux disciples, il dit, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Donc là, il associe à tout pouvoir qui m'a été donné dans le ciel et sur la terre, et il dit, « Allez !» Il dit, « Je vous donne le pouvoir de partir, d'aller annoncer la bonne nouvelle. Je vous donne le pouvoir d'aller annoncer la bonne nouvelle que les sacrificateurs, tous ceux qui s'opposent à moi veulent trafiquer. Levez-vous et allez annoncer la bonne nouvelle. » Donc une implication de la puissance de la résurrection de Jésus, c'est qu'on puisse tous se lever et commencer à annoncer la parole aux nations. Amen. C'est qu'on puisse dire à notre voisin que Jésus-Christ t'aime, qu'il est venu mourir à la croix pour toi, il est ressuscité le troisième jour. C'est qu'on puisse annoncer la bonne nouvelle autour de nous. Parce que tout pouvoir a été donné à Jésus. Et c'est lui qui nous commande, qui nous donne la commission. Il associe cela. Et ensuite il dit, « Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Il dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. On ne peut pas chanter. On ne peut pas se réjouir. On ne peut pas déclarer sur tous les toits que Jésus-Christ est ressuscité. Et puis on va s'arrêter là sans toutefois chercher à observer ses commandements. Ça ne marche pas. Quand on va déclarer que Jésus-Christ est ressuscité, quand on va déclarer la puissance de Dieu, on nous dit que les disciples l'adoraient. C'est-à-dire, le désir de notre âme, le désir de notre cœur doit être tourné vers Jésus. Et la manifestation de cela, c'est que notre cœur va chercher à marcher selon sa parole. Nous allons rechercher la sanctification. C'est ce qu'on nous dit. Sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Donc c'est ce que Jésus est en train de dire à ses disciples. Enseigne-leur à observer mes commandements. Donc la puissance ou la résurrection de Jésus doit nous impliquer à rechercher la sanctification, doit nous impliquer à marcher selon la parole de Dieu, à désirer faire plaisir à Dieu. C'est cela la puissance de la résurrection. On ne peut pas dire Jésus est ressuscité et puis on va se réjouir dans tout ce qui ne le glorifie pas. Mais quand on dit Jésus-Christ est ressuscité, cela implique que nous puissions mettre nos vies en ordre. Et je veux nous rassurer qu'auprès du Père, on est un avocat. Auprès du Père, on a un avocat. Il n'est pas en train de dire « Vivez comme vous voulez ». Mais il est en train de dire, observez mes commandements. Je suis avec vous tous les jours. Pour conclure, frères et sœurs, j'ai dit plusieurs d'autres implications, je suis allé pêle-mêle là, mais plusieurs d'autres implications peuvent être ressorties. Et comme j'ai dit, quand on regarde tous les à côté du test, il y a de multitudes qu'on peut faire ressortir vis-à-vis de la puissance de la résurrection de Jésus. Ben ce matin, comme disciples, ou comme les disciples et les femmes qui ont saisi cette grâce de la résurrection, nous aussi, nous pouvons la saisir, si on ne l'a pas encore fait. Et le faire, déjà, c'est reconnaître que sans Dieu, on ne peut rien. Le faire, déjà, c'est reconnaître que Christ est venu mourir à la croix pour nos péchés. Le faire, déjà, c'est reconnaître, effectivement, que sans cette reconnaissance de notre état de pécheur, on ne peut pas bâtir avec Dieu. Nous aussi saisissons cette grâce-là. Notre Seigneur n'est plus dans le tombeau. Non seulement il n'est plus à la croix, mais il n'est plus dans le tombeau. Amen. Il est vraiment ressuscité. Christ n'est pas venu pour rester à la croix. Pas seulement pour nous justifier, pour dire ah, « je suis venu mourir à la croix, vos péchés sont pardonnés, c'est fini ». Non, non, il va au-delà. Il est venu nous aider dans le processus de la sanctification. Il est venu pour que nous puissions avoir l'espérance aussi de notre résurrection. Parce que si on n'a pas l'espérance de la résurrection, comme on l'a dit tantôt, si c'est seulement sur cette terre qu'on espère, c'est que notre foi est vaine. Mais on doit pouvoir espérer dans le salut que Dieu nous donne par Jésus-Christ. Souvent, on va le dire en riant quand on se taquine un peu. On dit, dans la maison, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et on va rire pour dire, ah, mais certainement, certains seront dans de grandes maisons, d'autres seront dans des baraques et tout ça. Mais on lit, ça, c'est notre imagination humaine qui nous fait penser de la sorte qu'on va voir. Mais en réalité, Jésus nous promet le salut, la vie éternelle. Et c'est ce qu'on doit pouvoir saisir, c'est ce qu'on doit pouvoir désirer, c'est ce qu'on doit pouvoir rechercher en aspirant effectivement aux choses d'en haut. Et ce matin, je veux dire encore à quelqu'un que Jésus-Christ aime. Il t'aime et il veut se développer avec toi. Jésus-Christ t'aime et il veut te relever. Là où tu es tombé, il est prêt à aller te chercher pour repartir à zéro avec toi. Je veux dire à quelqu'un que Jésus-Christ t'aime. C'est pour ça qu'il est allé jusqu'à la croix. On nous dit qu'il a été obéissant jusqu'à la croix. Et à cause de cette obéissance jusqu'à la croix, mais pour toi, Dieu l'a souverainement élevé. Il l'a fait asseoir à sa droite. On dit au nom de Jésus, tout genou fléchit, toute langue confesse. Amen. Que Jésus-Christ est Seigneur. Et ce matin, je veux encore dire que notre Dieu est Seigneur. Il est vraiment ressuscité. Prions ensemble. Père, ce matin, je te bénis, je te dis merci parce que tu nous donnes l'espérance de la résurrection encore. Tu es vraiment ressuscité. Et je te prie afin que, Père, tu viennes nous aider à avoir les regards tournés vers toi, Seigneur. Là où nous sommes tombés, là où nous sommes découragés, là où nous sommes malades, Seigneur, là où nos espérances... Seigneur, sont anéantis. Je te prie de nous relever. Viens, Seigneur, parce que tu es ressuscité. Tu es vraiment ressuscité, Seigneur. Bénis-nous et garde-nous dans ta foi. Au nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.